C'est une joie d'être parmi vous. Alors, moi, c'est Benjamin, ma femme, c'est Aude. On est membre de l'église Porte des Postes à Lille. Et moi, je travaille pour France pour Christ. Et Aude est institutrice. Dans la série des livres qui sont difficiles à trouver, on va prendre un texte dans Habacuc. Après Agé et Michée, on continue les petits prophètes. Mais avant ça, j'aimerais vous parler d'une petite histoire qui nous est arrivée cet été. On était sur la plage. Il faisait très chaud, du coup on allait à la plage assez tôt le matin, enfin le matin et le soir. L'après-midi, on se confinait dans notre appart. Et en fait, le dernier matin, avant de repartir de vacances, on arrive sur la plage et on commence à se baigner. Et on voit un homme qui était vraiment pas loin de nous, qui buvait une bière, et on s'est rendu compte que c'était pas sa première, et que ça allait pas être sa dernière. Donc vous imaginez, il était 9h30, 10h du matin, il faisait déjà passé 30 degrés, on était en plein soleil, pas d'ombre, et il enchaînait les bières. Vraiment, il les enchaînait, il en finissait une, il en rouvrait une. Et en fait... Ben, c'était assez bizarre à voir, hein, parce qu'on voyait un homme seul, là, au milieu de tout le monde, sur la plage, qui parfois était simplement assis dans l'eau, à rigoler tout seul. D'autres fois, juste les yeux dans le vide, où je pense qu'il ne savait même pas vraiment ce qui lui arrivait. Et puis d'autres fois, où même il se mettait en danger, parce qu'il commençait à faire des saltos dans l'eau, tout ça, mais avec je ne sais pas combien de grammes dans le sang. Et en fait, je me suis dit, pas à ce moment-là, mais plus tard, je me suis dit, l'histoire de cet homme, à ce moment-là, ça ressemble un peu à notre monde. Ça ressemble à un monde qui court à sa perte, mais qui s'en rend pas vraiment compte, qui parfois même en rigole, parfois a les yeux dans le vide, à pas savoir ce qui lui arrive, parfois se met en danger, parfois a mal, mais qui continue. Qui continue à foncer droit dans le mur et sans vraiment de solution ou en pensant trouver des solutions qui sont finalement pas les bonnes. Et effectivement, on vit dans un monde qui va mal. On pourrait même avoir l'impression que c'est de pire en pire. Chaque année, c'est de pire en pire. Chaque rentrée, c'est de pire en pire. Rien que cette année, on a plus de 60 conflits armés dans le monde. Il n'y a pas juste l'Ukraine ou la Palestine et Israël, hein. Il y a 60 conflits armés dans le monde. On a 300 millions de personnes aujourd'hui dans le monde qui sont confrontées à la famine. On a une cinquantaine de millions de personnes qui vivent encore dans l'esclavage dans le monde aujourd'hui. Et parmi ces 50 millions, on a 5 millions qui sont des enfants et la moitié de ces 5 millions sont victimes d'esclavage sexuel. En France, dans notre beau pays, on a un enfant qui est abusé toutes les 3 minutes. En France, toujours, on a 2 millions de mineurs qui fréquentent des sites pornographiques tous les mois. 2 millions. Et ça fait que augmenter. Et cette semaine, j'ai assisté à une conférence, un séminaire sur l'esclavage, la prostitution des mineurs, et c'est effrayant. C'est effrayant les chiffres, c'est effrayant la réalité de ce qui se passe. La moyenne d'âge de rentrer dans la prostitution aujourd'hui en France est 13 ans. 13 ans. On vit dans un monde effrayant. À Saint-Quentin, cette semaine, il y a un jeune collégien qui a voulu se défenestrer à cause du harcèlement scolaire à Saint-Quentin, dans cette ville. Et combien ne sont pas arrêtés à la dernière minute? Combien mettent fin à leur vie? Comment c'est possible d'imaginer un monde où un enfant de 14 ans pense que la vraie solution, c'est que la vie soit finie? Que c'est mieux que toutes les autres solutions. Ben, c'est notre monde. C'est notre monde. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends toutes ces nouvelles, Ben, je peux avoir différentes réactions possibles. L'incompréhension. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi les conflits? Pourquoi l'injustice? Pourquoi le harcèlement? L'incompréhension peut parfois se transformer en révolte. C'est pas normal. Il faut faire quelque chose. C'est pas juste. Et honnêtement, face à vous, je dois aussi reconnaître des fois que dans mon cœur, j'entends tellement de mauvaises nouvelles qu'il y a parfois de l'indifférence. C'est juste une mauvaise nouvelle de plus. C'est juste une guerre de plus. C'est juste un harcèlement de plus. Et donc, comme promis, on va lire le premier chapitre de Habacuc et on va voir un peu comment ce texte peut nous encourager à vivre dans un monde qui n'a pas d'espoir, dans un monde qui court à sa perte, dans un monde qui semble aller de pire en pire. Et ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que ce texte dans Habacuc, chapitre 1, puisse nous encourager à vivre dans un monde qui rejette Dieu. Et je vais commencer à lire les premiers versets. Message dont le prophète Habacuc a eu la vision. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe. Le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. Alors, première chose que je me dis lorsque je lis ce texte, c'est qu'en fait, c'était pas mieux avant. C'était pas mieux avant. On peut parfois se dire, bah, c'était mieux avant. Mais non. Ça, ce texte, c'est 2800 ans, 2700 ans avant notre époque, avant 2025. Et qu'est-ce qui se passe? L'oppression, la violence, procès, conflit, la loi est sans vie, le droit est sans force, le méchant triomphe du juste et des jugements corrompus. Habacuc aurait pu écrire ça aujourd'hui, non? Mais il l'a écrit il y a 2800 ans. Il l'a expérimenté. Il a expérimenté le mal tout comme nous l'expérimentons aujourd'hui. Et il crie à l'Éternel, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais devoir être spectateur de ce triste spectacle qui se passe dans mon pays, qui se passe au sein du peuple de Dieu? Jusqu'à quand? Et on a l'impression que ce n'est pas la première fois que le prophète pose la même question à Dieu. Jusqu'à quand vais-je crier à toi? Il s'adresse à Dieu, mais Dieu ne répond pas, en tout cas pas pour le moment. Et il a deux questions principales à poser à Dieu. Pourquoi Dieu, tu n'interviens pas plus vite? Pourquoi Dieu, tu n'interviens pas différemment? Et deuxième question, pourquoi il y a tant de violence? Pourquoi tant d'injustice? Pourquoi tant de péchés? Et on peut comprendre, honnêtement, qu'il ait envie d'avoir des réponses, non? On a envie de poser les mêmes questions à Dieu parfois lorsqu'on... On allume la télé, qu'on voit les informations, qu'on est sur Internet et qu'on voit juste ce qui se passe autour de nous, dans notre propre ville, dans notre propre pays. On peut comprendre qu'il a envie d'avoir des réponses. Habacuc, il est troublé par le silence de Dieu, il est troublé par l'injustice qui se déroule juste devant ses yeux, chaque jour de sa vie. Pourtant, il y a quelques années en arrière, un bon roi était venu, Josias. Josias, auteur d'une réforme spectaculaire, d'un retour à Dieu. Il a lu le livre de la loi, il a déchiré ses vêtements, il s'est repenti devant Dieu. Il a amené le peuple à reconstruire, réparer le temple, à fêter la Pâque comme ça n'a jamais été fêté. Et quelques années plus tard, les successeurs de Josias ont été de pire en pire. Comme si Josias n'avait jamais existé. Comme si Dieu n'existait pas. Alors le prophète est fatigué. Il est fatigué de voir ces injustices qui remplissent le pays. Il est fatigué par le silence de Dieu. Il répète encore à Dieu, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand vais-je crier à toi ? Pourquoi tu n'interviens pas ? Pourquoi tant de violence ? Pourquoi tant d'injustice ? Et en fait, on voit chez Habacuc un décalage entre ce qu'il connaît de Dieu et son expérience. Pour lui, Dieu, il est censé parler, il est censé répondre à l'injustice, et on va le voir plus tard, plus en détail. Mais Dieu doit détester l'injustice, Dieu est juste, qui donc dans le ciel est semblable à toi, on l'a chanté. Il crie à Dieu, il manifeste son incompréhension. Habacuc n'est pas indifférent face au mal et à l'injustice. Habacuc ne se voile pas la face. Comment nous, on réagit face aux injustices ? Est-ce qu'on est indifférent ? Est-ce qu'on est révolté ? Le prophète ne dénonce pas au peuple ce qui ne va pas, contrairement à la majorité des prophètes. Habacuc s'adresse à Dieu directement pour savoir pourquoi Dieu n'intervient pas face au mal que commet le peuple. Jusqu'à quand ? Cette question « jusqu'à quand ?» et on peut lire plein de fois « jusqu'à quand ?» des « jusqu'à quand ?» dans les psaumes, par exemple. « Jusqu'à quand, Dieu ? Jusqu'à quand ?» Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que le « jusqu'à quand ?» de Habacuc, c'est une rébellion contre Dieu. Dieu, t'es pas un bon Dieu, tu n'interviens pas, tu fais n'importe quoi, il y a des injustices, est-ce que t'es vraiment juste au final ? On va voir plus tard que c'est pas trop cette option-là. Est-ce que c'est une expression de la confiance dans la souffrance ? Est-ce que c'est un appel à l'aide ? Jusqu'à quand, Dieu ? Au secours, interviens. Si toi, tu n'interviens pas, personne ne le fera. Et peut-être même qu'on peut aller plus loin. Finalement, est-ce que ce ne serait pas une association à la pensée de Dieu ? Parce que finalement, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, le premier à se poser la question « jusqu'à quand ?», c'est Dieu lui-même. Exode 16, 28, je ne le lirai pas, mais si vous prenez des notes, vous pouvez le noter. Nombre 14, 11. Dieu dit lui-même, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand mon peuple va-t-il me rejeter ? Jusqu'à quand le peuple va-t-il commettre l'injustice, le mal, le péché ? Jusqu'à quand ? Dieu déteste le mal. Alors la première chose à faire face aux injustices de ce monde, c'est s'adresser à Dieu, non pas dans la révolte, non pas dans les murmures, mais dans la confiance, en sachant que Dieu déteste le mal. Je vous cite une petite citation d'un pasteur qui dit « Il y a toujours eu cette distinction importante entre le cynisme amer et la confrontation croyante. L'un est un déni qui refuse de croire, l'autre est une croyance qui refuse de nier. L'un fait des affirmations et ne reste pas pour obtenir une réponse. L'autre fait des affirmations et ne bougera pas tant qu'il n'y aura pas de réponse. » Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il y a une distinction cruciale entre les murmures et la confiance. On peut poser la question « jusqu'à quand ?» de deux manières différentes. Dans la révolte ou dans la confiance. Le peuple dans le désert, à la sortie d'Égypte, a murmuré contre Dieu. On a faim, on n'a pas de pain, on n'a pas de viande. L'Égypte, c'était tellement mieux. Vous vous rendez compte ? Ils étaient esclaves. Et ils osent dire à Dieu qui vient de les libérer, c'était mieux l'Égypte. On avait des concombres à manger. Habacuc n'est pas dans cette réaction-là. Habacuc a confiance, et on va le voir plus tard. Nous aussi, on a le droit de dire jusqu'à quand ? Jusqu'à quand l'injustice ? Mais faisons-le, non pas en murmurant ou en râlant, en refusant de croire. Faisons-le dans la confiance, même lorsque je ne comprends pas, même lorsque Dieu met du temps à répondre. Je continue. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable. Il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers se déploient, ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, le visage tendu vers l'avant, et il rassemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes sont l'objet de ses railleries. Il rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors il change d'avis et poursuit sa marche, et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Dieu répond à Habacuc. À la question « Dieu, pourquoi tu ne fais rien ?» Dieu répond « Ne t'inquiète pas, je vais intervenir. Je ne fais pas rien. Je ne suis pas insensible à ce qui se passe dans ton pays, autour de toi. Je ne suis pas insensible. Je vais juger le mal. Je vais mettre fin aux injustices. » Et Dieu, cette fois-ci, ne s'adresse pas que à Habacuc, mais il va parler à l'ensemble du peuple. Dieu veut s'assurer que tout le monde entende son message. Car le problème du mal n'est pas l'affaire seulement de Habacuc, mais il concerne tout le monde. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu déteste le mal et Dieu va mettre fin aux injustices. Dieu va intervenir. Si toi, tu es insensible à l'injustice, dis-toi que Dieu l'est encore plus que toi. Si toi, tu cries « jusqu'à quand ?», dis-toi que ça fait bien longtemps que Dieu dit « jusqu'à quand ?». Si toi, tu es fatigué de l'injustice dans ce monde, dis-toi que Dieu l'est d'autant plus que toi. Dieu déteste le mal tellement plus que nous, que moi. Et Dieu va juger. Et Dieu va juger de manière terrible, hein, on peut le dire. Il va envoyer les Babyloniens pour ravager ce peuple infidèle. C'est dur, mais c'est juste. Et c'est rassurant, finalement, de se dire que Dieu est juste. Ça veut dire que s'il est juste, il va juger justement tout ce qui se passe dans ce monde. Mais c'est clair, la réponse de Dieu est choquante pour Habacuc. Honnêtement, et je vais être un peu cash, c'est comme si un Français, en 1937, disait à Dieu « Jusqu'à quand le mal ?» Et Dieu dit « Je vais envoyer les nazis. » Et c'est comme si les Allemands, en 1940, disaient « Jusqu'à quand le mal ?» Et Dieu disait « Je vais envoyer Staline. » Pour eux, les Babyloniens, mais c'est la même cruauté que Hitler. J'ai pas le temps de vous dire tout ce qu'ils ont fait, mais juste une anecdote. Nebuchadnezzar, quand il détruit, quand il pille Jérusalem, qu'il détruit le temple, qu'est-ce qu'il va faire au roi Sédécias ? Il va égorger chacun de ses enfants et lui crever les yeux. La dernière image que tu auras dans la tête, c'est celle de tes enfants égorgés. Ça, c'est la cruauté des Babyloniens. C'est terrible. Et on le voit dans le texte. Hein. Sa force à lui, voilà son Dieu. Ses regards avides se portent en avant. Il rassemble des prisonniers comme du sable, il se moque des rois. Il vole comme l'aigle qui fond sur sa proie. Ça, c'est les Babyloniens. Et Habacuc est choqué. Et on va le voir après, sa réponse d'Habacuc. Mais pour le moment, même si c'est dur, nous devons être heureux que un jour Dieu va juger. Nous devons être heureux que un jour, même si ça fait mal, Dieu va mettre fin aux injustices. Dieu est en train d'affirmer qu'il est au-dessus de tout, et on l'a lu dans le psaume, hein, il est au-dessus de toutes les nations, le psaume 113 qu'on a lu tout à l'heure. Il est au-dessus de tout. Rien ni personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a décidé. Et Dieu a décidé d'envoyer les Babyloniens pour ravager le peuple de Dieu qui est infidèle. Dieu va juger. La deuxième chose à faire face aux injustices de ce monde, c'est de laisser Dieu accomplir sa justice. Laissons Dieu accomplir sa justice. N'ayons pas soif de vengeance, mais remettons la justice à Dieu. Ça ne signifie pas, évidemment, l'inaction. Si votre enfant est harcelé, ne lui dites pas « t'inquiète pas, laisse faire, Dieu va juger ». Non, bien sûr, il faut être actif. Si je vois des injustices, je ne vais pas dire « oh, bah, je m'en occupe pas, c'est Dieu qui va s'en occuper ». Non, il faut être actif. Mais soyons actifs dans la confiance que Dieu est le juste juge. À lui revient la justice. À lui revient la vengeance. À lui revient le jugement. Même si l'injustice n'est pas réglée aujourd'hui, ayons foi que la justice s'accomplira un jour par notre juste juge. Je termine le chapitre 1. N'es-tu pas depuis toujours éternel, mon Dieu, mon saint ? Nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traîtres ? Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître ? Le Babylonien les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet. Il les rassemble dans sa nasse. Alors il est dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il offre un sacrifice à son filet. Il fait brûler de l'encens en l'honneur de sa nasse. Car grâce à eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations ? Habacuc est troublé et on comprend, on l'a dit tout à l'heure, pourquoi tu envoies les Babyloniens. Ils sont encore plus cruels que Israël. Si, au début du chapitre, Habacuc est troublé par « Pourquoi Dieu, tu n'interviens pas ?» Cette fois-ci, il est troublé par la manière que Dieu va faire pour intervenir. Il est encore plus dans le mal qu'au début, en fait, Habacuc. C'est pas la réponse qu'il voulait. C'est pas ce qu'il voulait voir, entendre de la part de Dieu. C'est pas ce à quoi il s'attendait. Non, tu n'as pas le droit, Dieu, d'envoyer les Babyloniens. Tes yeux sont trop purs. Et là, clairement, j'ai commencé à le mentionner tout à l'heure, mais clairement, on a vraiment un décalage énorme entre ce que Habacuc sait de Dieu et ce qu'il entend de Dieu et son expérience. Et pour lui, Dieu est le rocher. Il est juste, il est pur, il est parfait, il est glorieux. Et t'envoies les Babyloniens. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Habacuc voulait des réponses pour l'apaiser, mais les réponses de Dieu vont encore plus lui torturer le cerveau. Et c'est vrai, On peut dire comme Habacuc, Dieu est glorieux, n'est-ce pas? Il est beau, il est saint, il est parfait, il est fidèle. On peut le dire comme Habacuc. Et c'est vrai que notre expérience fait que des fois, on peut se poser la question. Mais du coup, comment ça se fait, ça? Comment ça se fait qu'il y a encore des meurtres aujourd'hui? Mais malgré tout, ce qui peut nous rassurer et ce qui peut nous encourager dans ce texte, c'est que Habacuc, même dans son incompréhension, même dans son cerveau qui est à ébullition, là, il ne comprend pas ce qui lui arrive, le pauvre. Malgré tout ça, Habacuc s'appuie sur ce qu'il connaît de Dieu pour s'adresser à lui. Même si Habacuc ne comprend pas, même si Dieu n'agit pas comme il l'aurait imaginé, il continue à lui parler. Il continue à poser les questions à la bonne personne. Il n'a pas lâché la connexion avec Dieu, il continue. Il continue à voir en son Dieu un rocher qui ne change pas, qui ne tremble pas, qui est stable. Il continue à voir Dieu comme son Dieu. Il exprime ses questionnements sans détour, mais sans révolte non plus. Habacuc, même dans son incompréhension, on peut y voir une certaine soumission, même dans ses revendications. Habacuc a déjà un espoir, même dans le jugement, parce qu'il peut discerner que Dieu va aussi mettre fin aux injustices de Babylone. La troisième chose à faire face aux injustices de ce monde, c'est de laisser notre Dieu, celui qui ne change pas, accomplir sa justice et continuer de s'adresser à lui dans la confiance. La confiance que Dieu reste Dieu, même s'il agit différemment de ce qu'on imagine. Alors, pour conclure, j'aimerais vous donner quelques messages d'espoir qu'on peut trouver dans le reste de Habacuc. En fait, on pourrait se dire, mais là, on est dans un cercle vicieux. Ok, Israël fait le mal, Dieu envoie Babylone pour juger Israël. Mais Babylone fait le mal et Dieu va juger Babylone avec un autre peuple. Et quand on lit la Bible, on voit que cet autre peuple sera aussi jugé par un autre peuple. Et là, on est dans un cercle vicieux de péché, de jugement. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Il y a besoin d'autre chose, là. Il y a besoin qu'à un moment, ce cercle vicieux soit cassé, non? Sinon, quand est-ce que ça va s'arrêter? Eh bien, quelques notes d'espoir dans la suite de Habacuc. La première note d'espoir, c'est que le juste vivra par la foi. Habacuc 2, verset 4. Le juste vivra par la foi. La manière de casser le cercle vicieux de la mort, c'est la foi. Le juste vivra par la foi. Et ça, c'est international. C'est parmi tous les peuples. Le juste vivra par la foi. Deuxième note d'espoir qui est reliée, toujours dans Habacuc chapitre 2, verset 14. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Quelle espérance pour notre monde. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Revenons un peu à la création. Dieu crée l'homme et la femme à l'image de Dieu. Des êtres humains créés à l'image de Dieu, qui reflètent à leur niveau la gloire de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu pour refléter la gloire de Dieu. C'est notre mission sur cette terre, refléter la gloire de Dieu. La terre, quand Dieu dit « remplissez la terre », c'est pour la remplir de la gloire de Dieu. Le constat, on l'a dénoué, hein, la terre est remplie de violence, Habacuc, le mal triomphe, et ça continue encore, encore, encore. L'être humain a échoué lamentablement dans sa mission. Non, aujourd'hui, si on allume la télé, c'est pas les infos ne disent pas que la terre est remplie de la gloire de Dieu. Non. Mais un jour, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Le cercle vicieux sera anéanti. Dieu aura triomphé définitivement du mal. Je ne sais pas s'il y aura la télé lorsque Jésus reviendra, mais s'il y en a, quand on l'allumera, on ne verra pas les mêmes choses qu'aujourd'hui. La connaissance de la gloire de l'Éternel. Dieu ne se trompe pas et Dieu gagne toujours. Dieu triomphe toujours. Et il l'a fait en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, la justice de Dieu s'accomplit. En Jésus-Christ, un innocent meurt à la place des coupables. Pour que ceux qui ont la foi vivent. La solution est toujours la même. Le juste vivra par la foi. Et de cette manière-là, la terre sera remplie un jour de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Quel espoir pour notre rentrée scolaire, quel espoir pour cette année qui est devant nous. D'un côté, on pourrait dire, ben, il y a peu d'espoir. Non, je doute qu'en 2025-2026, les choses changent radicalement, sauf si Jésus revient. Les harcèlements vont continuer. Les guerres vont continuer. La famine va continuer. Les conflits vont continuer. Mais nous avons un message d'espérance à apporter à notre monde. Nous avons un message d'espérance. Le juste vivra par la foi. C'est ce message que nous avons la responsabilité d'apporter dans ce monde qui tourne pas rond, dans ce monde qui court à sa perte, qui fonce dans le mur. Nous avons cette responsabilité parce que nous-mêmes avons été rachetés, comme on l'a lu, hein. On l'a lu au tout début. Dieu pardonne et Dieu nous a pardonné. Nous ne valions pas mieux qu'eux. Nous étions de leur nombre, mais Dieu, dans sa grâce, nous a pardonnés. Que nous, chacun, en tant qu'Église, nous apportions ce magnifique message d'espérance que un jour, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Je vais prier. Merci Père, parce que on sait que tu interviens, même si c'est pas toujours dans notre timing, même si c'est pas toujours de la manière qu'on l'aurait imaginé, mais tu interviens. Merci parce que on peut s'adresser à toi dans nos injustices, parce qu'on sait que tu détestes tellement plus que nous l'injustice, et que tu agis, que tu es juste, que tu es juge. Merci parce que tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, mourir à la croix pour que nous échappions à ton jugement, pour que nous soyons tes enfants aujourd'hui, graciés, rachetés à un si grand prix. Je te prie que nous ne soyons pas juste des hommes et des femmes en voyant ce monde indifférent ou même à juger, à l'excès ce qui nous entoure, mais que nous soyons débordants d'amour pour ce monde et prêts à porter ce message d'espérance. Merci parce qu'un jour, nous vivrons dans un monde où la terre sera remplie de la connaissance de ta gloire. Merci parce que tu vas renverser les choses, tu vas ramener ce retour à ce qui était prévu à la base, un monde rempli de la gloire de Dieu. Je te prie pour cette église à Saint-Quentin, que tu puisses l'encourager, que tu puisses peut-être encourager ceux qui aujourd'hui vivent particulièrement des injustices, qui sont confrontés particulièrement au mal dans leur vie, que tu puisses les encourager à regarder à toi, non pas à murmurer, mais à crier jusqu'à quand dans la confiance, dans le calme de la foi. Je te prie que cette église soit porteuse d'espérance dans cette ville de Saint-Quentin, dans cette région. Merci pour ta parole, parce qu'elle nous encourage. Amen.